Olivier Cromwell par Funk Brentano. Le célèbre dictateur naquit le 25 avril 1599 dans le comté de Huntingdon, en Angleterre, sur les bords de Laos. Son véritable nom de famille était Williams. Son arrière-grand-père paternel, Morgan Williams, était brasseur. Son grand-père, neveu du fameux Thomas Cromwell, comte d'Essex, chancelier de Henri VIII, et mort sur l'échafaud, prit de son oncle le nom que son petit-fils devait illustrer. La famille avait affermé les biens de l'abbaye d'Ely et mené dans le comté de Huntingdon une vie de gentilhomme campagnard, « gentleman farmers » disent les Anglais. La mère d'Olivier Cromwell, Elizabeth Stuart, étaient femmes de grande valeur. L'enfant passa ses premières années dans l'existence calme et quelque peu solitaire de la campagne, chassant aux outardes parmi les marécages d'Ely. En 1616, l'année de la mort de Shakespeare, on trouve le jeune homme à l'université de Cambridge, où il fit partie du collège de Sidney Sussex, que dominaient les idées de réformation religieuse les plus austères, les doctrines et les pratiques puritaines dont sa jeune pensée fut pénétrée au point qu'elles vont devenir, pour sa vie entière, le guide et le mobile de sa conduite. Après quelques études juridiques à Londres, Olivier Cromwell épousa, en août 1620, Elizabeth Bourtier, fille d'un riche négociant de la cité. Olivier ne cessa de faire avec elle bon ménage. Ils eurent de nombreux enfants. Revenu à Huntingdon, il s'y occupe exclusivement de son exploitation rurale. 10 ans d'une vie obscure, mais rude et active. Les contemporains le montrent en son humeur sombre, où passent des rêves d'exaltation religieuse. Il se promenait au bord de Laos, qu'ombrageaient les zones noires sous le ciel humide de la contrée, tandis qu'il suivait d'un œil distrait les bestiaux broutant leur gras pâturage. Il songeait aux choses de Dieu, à la ligne de conduite que les livres saints nous imposent, et dans sa pensée rude et simple éclataient des accès d'indignation contre les frivolités et les vaines pompes du papisme, comme ses compatriotes réformés désignaient les pratiques catholiques. Il restait des heures entières comme engourdi sous des bouffées d'humeur noire, de sauvage hypochondrie. Dans sa 30e année, Olivier Cromwell est un homme de haute taille, large des épaules, une tête énorme aux cheveux bruns. Le poids de son cerveau, supérieur de moitié au poids moyen de la cervelle humaine, est le plus grand qui ait été constaté chez un homme célèbre. Sa figure est empourprée, enluminée de carmin, comme celle du plus vaillant amateur de Bourgogne. Il avait un très gros nez au milieu du visage et que cette rutilance rubiconde faisait flamboyer. Son caractère était éminemment émotif, impressionnable. Il pouvait s'emporter en de grands mouvements d'enthousiasme qu'il remplissait de feu et d'ardeur. Mais, dans les circonstances graves, où il fallait de la réflexion et de la décision, il donnait froid, très calme, se dominant lui-même et les événements. Il avait beaucoup d'esprit naturel, un esprit caustique, brillant d'humour, et pouvait, en compagnie de ses familiers, secouant son caractère sombre, se répandre en saillies de la plus heureuse et franche gaieté. En 1628, Cromwell sort momentanément de sa retraite pour aller siéger à Londres au Parlement, où l'ont envoyé les habitants du comté de Huntingdon. Le jeune gentleman farmer n'y jouera d'ailleurs qu'un rôle effacé. Il ne prit la parole qu'une seule fois, pour réclamer la liberté de prêcher la doctrine puritaine, c'est-à-dire le protestantisme le plus rigide, le plus intransigeant. Le 10 mars 1629, le roi Charles Ier dissolvait le Parlement et en 1630, Cromwell était nommé juge de paix du bourg de Huntingdon. Dans ses fonctions, il prend systématiquement le parti des pauvres gens. En 1631, il vend ses propriétés de Huntingdon et découragé des luttes qu'il avait à soutenir, se retire à peu de distance, à Saint-Yves, localité sise également sur Laos, où il ne s'occupe plus que d'élever et vendre ses bœufs et de faire l'éducation de ses 6 enfants. Il rêve, des heures durant, aux vérités de l'Évangile, que viennent commenter des prédicants ambulants. Le bourg de Saint-Yves est somnolent, mélancolique, endormi sous les lourdes frondaisons des chaînes séculaires. Des maisons que le temps a jaunies, au bord de la rivière aux eaux stagnantes, barrées d'un vieux pont en dos d'âne à l'échine très aiguë, où 3 personnes ne pourraient passer de front sans se gêner. Cromwell occupe un domaine nommé le manoir du sommeil. C'est au fond du manoir silencieux, parmi la tristesse des marécages, que viennent l'émouvoir les rumeurs de l'insurrection soulevée contre Charles Ier et le papisme royal. Le 11 janvier 1635, son cousin, l'écuyer John Hampden, refusait de payer 31 shillings et 6 pence qui lui étaient réclamés au nom du roi. Ces 31 shillings et 6 pence devaient devenir l'occasion d'une agitation importante. En 1637, on plaidait encore. Cromwell est venu s'installer à Ely, dans la maison de son oncle, le fermier des Dîmes abbatiales, résidence antique, aussi sombre et triste que le manoir du sommeil. De larges cheminées gothiques, de grises balustrades effritées par le temps. La demeure cadre avec la sévère apparence d'Olivier sous son large chapeau de feutre noir, en habit noir et bas de laine grise. Il se met en opposition ouverte avec le gouvernement à propos des travaux de canalisation de Laos, importants pour toute la région et qui étaient interrompus. Sa correspondance dans cette partie de sa vie est curieuse. Il y prend une apparence de plus en plus sévère et résolue en son fanatisme froid et obstiné. Il parle à ses cousines de son âme ténébreuse où Dieu seul reluit. Et ceci va devenir une hantise, dont ses paroles, ses écrits, ses actions seront imprégnées. Il est toujours sincère, de bonne foi, d'une conviction brutale et ardente, car il croit, roide comme fer, que ses pensées, ses paroles, ses actes sont inspirés par Dieu, ou tout au moins conformes à la volonté de Dieu, dont la cause lui semble étroitement nouée à la sienne. Ce sera sa force terrible. Il fera exiler, emprisonner, égorger ou décapiter les gens, et dans quelles effroyables proportions, avec limpidité, tranquillement convaincu que ce qu'il en fait est pour le service de Dieu. Le Moyen-Âge français présente une figure qui, sur ce point et bien d'autres, offre les plus étroits rapports avec Olivier Cromwell, Simon de Montfort. Mais Simon de Montfort estimait qu'il était de la volonté de Dieu qu'il fît massacrer le plus grand nombre possible d'Albigeois, tandis que Cromwell pensait que cette volonté était satisfaite par un non moins copieux massacre de catholiques et de presbytériens. Cromwell est âgé de 41 ans quand il rentre au Parlement, car après une abstention de 11 années, Charles Ier s'est décidé à le convoquer de nouveau. Son éloquence rude, abrupte, incorrecte, chaotique, mais singulièrement énergique et prenante, a gagné une force incomparable. Elle éclata avec fureur lors du procès de G. Lilburn, jeune puritain d'un fanatisme farouche, secrétaire du pamphlétaire Prynne, qui avait eu les oreilles coupées et le nez fendu pour des libelles contre la cour de la reine. Lilburn, pour avoir vendu des pamphlets de Prynne, avait été traîné par le bourreau depuis Westminster jusqu'à Fleet Prison, avec accompagnement de 200 coups de fouet. En écoutant parler Cromwell, note Sir Edmund Eves, les membres du Parlement étaient pâles comme l'avait été le peuple qui avait assisté au long supplice. Ce fut alors, dit un autre témoin, Sir Philip Warwick, que je vis Cromwell pour la première fois. En sa haute taille, le visage rouge et boursouflé, il parlait debout, l'épée collée à la cuisse. Son habit de drap, tout uni et fort commun, semblait l'œuvre d'un tailleur de village. Son linge était grossier et ne brillait pas par sa fraîcheur. On voyait une ou deux taches de sang sur le col de la chemise. Sa voix éclatait en son strident, sans inflexion. Mais il parlait avec ardeur en faveur du jeune Lilburn qui avait répandu des pamphlets. Nous ne pouvons suivre ici par le détail la prodigieuse carrière d'Olivier Cromwell. Au cours de la guerre civile qui va s'ouvrir, il jouera un rôle également éminent comme capitaine sur les champs de bataille et comme parlementaire. Le rude gentilhomme du manoir du sommeil se révéla conducteur d'hommes incomparables, incomparables surtout à la tête de ses régiments de cavalerie. Il s'entourait de soldats fanatisés comme lui par le puritanisme. Son camp retentissait du chant des psaumes. On allait au combat en récitant des versets de la Bible, et les victoires étaient suivies de journées de jeûne, de crainte qu'on ne s'exaltât dans la pensée que le triomphe pouvait ne pas venir de Dieu. Ce qui importe, c'est de bien se battre, mais surtout de lire les Écritures. « Nos ennemis ont pour eux leur vieil honneur », lui disait son cousin Hampden, l'homme aux 31 shillings. Hampden faisait allusion au culte de l'honneur chevaleresque, cultivé par la noblesse brillante qui entourait Charles Ier, à quoi Cromwell répondait « À l'honneur, il faut opposer la religion ». Et il était toujours vainqueur des meilleures troupes, des capitaines les plus éprouvés. Il avait évidemment imaginé une tactique nouvelle pour l'époque, rude et simple, et qui fait déjà penser aux manœuvres des Hoches et des Marceaux face aux armées impériales. Mais sa principale force était dans son fanatisme absolu, impavide, irrésistible, qui le poussait en avant comme un bloc d'airain, avec ses hommes animés du même esprit. Cromwell est le véritable auteur de la condamnation de Charles Ier, décapité le 30 janvier 1649. C'est lui qui fit décider le procès et poursuivit la condamnation avec acharnement. En y joignant les cruautés qu'il exerça en Irlande, c'est l'ineffaçable tâche de sa vie, d'autant que du malheureux monarque, il prendra la succession, s'installa à Whitehall, dans les meubles du roi, et s'il refusa le titre suprême, il en exerça du moins les attributions et le plus entier pouvoir. Le 26 juin 1657, Cromwell était pour la seconde fois, nous allions dire sacré, protecteur de la République anglaise dans l'église de Westminster. Il portait la pourpre, l'hermine et le sceptre. Il avait reçu le pouvoir de désigner lui-même son successeur. Son choix tomba sur son fils aîné, Richard. Du moins, par son intelligence, son activité, par son don d'organisation, le protecteur justifia-t-il la puissance mise entre ses mains. On a pu saluer en lui le créateur de la grandeur anglaise. Depuis son gouvernement, nos voisins d'outre-Manche n'ont guère fait que marcher dans la voie qu'il avait tracée. Le rude soldat favorise les arts et les lettres. Il prend soin des fameux cartons de Raphaël. Il enrichit Whitehall de tapisseries admirables et d'un monde de statues au grand scandale des austères puritains. Il eut Milton pour secrétaire. 20 années durant, Olivier Cromwell avait porté, sans un instant de défaillance, ce fardeau trop lourd pour un homme dont il parlait souvent. Les idées religieuses dont il n'avait cessé de s'inspirer allèrent s'accentuant. « Mes enfants, disait-il, sur ces derniers jours, à son entourage, vivez en chrétien. Je vous laisse le pacte avec le Seigneur pour vous alimenter. » Après une agonie de 3 jours, car la mort semblait ne pouvoir venir à bout de sa formidable constitution, Olivier Cromwell s'éteignit dans une sérénité imposante. Après lui, son fils Richard ne pourra soutenir la terrible charge de l'héritage paternel. Charles II, fils de Charles Ier, que Cromwell avait fait décapiter, monta sur le trône. Le 26 janvier 1661, la sépulture de Cromwell à Westminster fut violée, et le 30 janvier, 12e anniversaire de la mort de Charles Ier, le cadavre du protecteur fut pendu à un poteau d'infamie. Après quoi, la tête en fut exposée à Westminster et le corps enfoui sous le gibet. C'était Olivier Cromwell par Funk Brentano.